Le 15 octobre,
dans toute la ville de Florac,
c'est la fête paysanne.
Marché de producteurs, conférences, rencontres, partage.
Cette année, on parle ensemble de l'autonomie paysanne.
Avec à 11h et 13h30, des plateaux Radio Bartas en direct de L'Encrier.
Bienvenue à toutes et tous dans toute la ville de Florac à la fête paysanne. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 et quel plaisir d'être à L'Encrier en direct. La fête paysanne a commencé ce matin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à L'Encrier, sur la place du marché, au théâtre de Verdure. Il y en a partout, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Et c'est parti, nous on va débattre aujourd'hui vers une autonomie paysanne, c'est l'objet de ces plateaux aujourd'hui. Et quel plaisir d'accueillir Sylvain, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors n'hésite pas à venir parler dans le micro.
Ce serait
loin. Ouais, donc bonjour Sylvain.
Eh ben bonjour.
Alors toi tu représentes la FOCG, c'est bien ça?
La FOG, oui, c'est pour parler un peu de l'autonomie en termes de comptabilité et de gestion.
Alors, vaste sujet. nous sommes aussi avec Simon, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Simon, toi tu es donc tu représentes ici Solidarité Paysan.
Oui, alors en Lozère, c'est une nouvelle association, on est en train de le créer. Mais voilà, je suis là pour parler de ça avec vous aujourd'hui.
Approchez-vous encore du micro, n'hésitez pas. Et Julien, bonjour.
Bonjour.
Alors Julien, toi, tu es ici pour parler des boutiques de producteurs, mais tu es aussi porte-parole de la Confédération Paysanne.
Alors exactement, co-porte-parole, puisqu'on assume la charge à deux avec mon collègue Siméon qui viendra cet après-midi.
Siméon qu'on recevra tout à l'heure, notamment pour parler de l'abattoir mobile. Eh ben on y va, on rentre dans le vif du sujet, hein, la FOG. On va y aller simplement, commençons par présenter simplement ce que c'est.
Alors la FOG, c'est une association nationale qui a pour but la formation des agriculteurs pour leur permettre de faire leur comptabilité et puis surtout de la comprendre.
Alors forcément, c'est un métier de gérer la compta. C'est pourtant justement vers cette autonomie et de se passer d'experts comptables ou ce genre d'organisme.
Oui, c'est le but en fait, c'est de pouvoir savoir la faire, la comprendre et de garder sa comptabilité chez soi. Voilà, c'est surtout ça. En outre, donc, on a des journées de formation. Ces journées de formation, elles sont là pour qu'on puisse faire la comptabilité, mais également, après, quand on est autonome, eh ben, c'est de partir sur d'autres formations, que ce soit la transmission, que ce soit plein de tout ce qui nous intéresse, en fait.
Concrètement, un agriculteur, un paysan qui s'installe vient vous voir et vous prodiguez vraiment du début à la fin, vous lui expliquez les chiffres, enfin tout l'exercice comptable.
Alors c'est pas moi qui le fais, hein, parce que moi je fais partie de la FOG, donc je suis de l'autre côté de la barrière, mais en fait on adhère à l'association. En adhérant à l'association, on acquiert un logiciel qui nous permet de faire notre comptabilité. Et l'association est là pour nous encadrer en fait. Et donc on a des journées où on se réunit entre 4 et puis 7 agriculteurs, où là, on va avoir un formateur qui nous accompagne pour voir qu'on ne fasse pas de bêtises. Et, la première année, ça, on va avoir 7 journées pour apprendre, et puis les années d'après, 3 journées suffisent, en fait.
Quel genre de bêtises on peut faire?
Toutes sortes. En fait, c'est, la comptabilité, c'est un cadre très précis. Donc avec des comptes de toutes sortes, et donc ça s'improvise pas en fait. Faut qu'on mette les chiffres dans les bons comptes, et voilà. Et que ça corresponde à notre relevé bancaire ou à nos sorties en caisse.
Toi donc tu en fais partie,
oui.
C'est quoi la plus grosse des galères au niveau de la compta qui t'est arrivée?
Alors ce qui est très important quand on va à la FOG, c'est déjà d'avoir toutes nos factures triées, nos relevés bancaires triés. Et après, ça simplifie quand même beaucoup le fait de faire sa comptabilité, en fait.
C'est un service gratuit?
Non, il y a une adhésion,
ouais,
qui est de, je ne sais plus exactement, mais entre 400 et 500 euros par an. Voilà, ce qui nous permet de se réunir et d'avoir quelqu'un qui nous suit.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, si jamais vous faisiez appel à un expert comptable ou à ce genre de choses, ça serait des prix beaucoup plus importants.
Oui, c'est peut-être un peu plus important, mais c'est pas quand même l'objectif. C'est pas que de payer moins cher, en fait. C'est quand même d'acquérir tout ce qu'il nous faut pour savoir la faire.
Alors n'hésitez pas, hein, je te voyais, Julien, n'hésitez pas à intervenir, c'est une table ronde.
Oui, Julien en fait partie aussi.
Ouais, je peux marcher sur le plate-bande de Sylvain, je fais aussi partie de la FOG. Alors, juste pour situer au niveau géographique, la FOG c'est un réseau national qui s'appelle Interafog, et il y a des AFOG dans différents départements. Malheureusement, il n'y en a pas encore en Lozère.
Eh ben oui, parce que en préparant cette émission, j'ai tapé 48, mais il n'y en a pas.
Et non, voilà. Donc, Sylvain, je crois, fait sa compta avec l'AFOG 12.
De l'Aveyron. Oui.
Et moi, je fais ma compta avec l'AFOG de Haute-Loire, à Brioude, parce que géographiquement, je ne suis pas très loin de la Haute-Loire. Voilà. Et donc, effectivement, c'est quand même relativement moins cher que de faire la comptabilité à une boîte de compta privée, quelle qu'elle soit. Mais comme disait Sylvain, l'intérêt majeur, c'est pas que ça revienne moins cher, parce que finalement, on passe quand même, nous, paysans, beaucoup de temps à saisir notre compta. Et le différentiel de prix qu'il peut y avoir avec un comptable privé, finalement, si on regarde les jours de travail qu'on y passe, c'est peut-être pas plus avantageux. Mais on comprend notre compta, et surtout on peut faire de la gestion. La compta, c'est pas passionnant en fait, c'est de la saisie. Par contre, Simon n'est pas d'accord, mais moi pour le faire, je trouve pas ça passionnant. Je suis content de le faire, mais ce qui est passionnant, c'est la gestion en fait, c'est de pouvoir faire des choix d'entreprise et de savoir que tel atelier est plus rentable que celui-là, ou celui-là n'est pas rentable, pourquoi, j'ai des charges trop importantes là, il faudrait que je puisse les baisser. Par exemple, pour moi, à partie, les charges d'achat de semences sont quelque chose d'important. Comment je peux pallier à cette charge importante? C'est l'autoproduction de semences, quoi. Voilà, par exemple. Et ça, c'est de la gestion, typiquement.
Et justement, si donc toi, il faut préciser que tu es maraîcher.
Oui, pardon.
Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui manquerait, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait en Lozère pour justement créer une AFOG?
Alors, pour qu'on puisse créer une AFOG, il faut qu'il y ait un minimum d'adhérents, en fait. Parce que quand on veut créer une AFOG au niveau départemental, on va avoir un animateur ou une animatrice qui va être présente tout le temps sur le territoire. Donc, il faut qu'il y ait assez d'adhérents pour pouvoir la payer, en fait. Ça représente entre 20 et 30 adhérents.
Oui, quand même. Listons les bénéfices de créer une AFOG et donc de motiver.
Pour nous qui faisons déjà notre compta actuellement, peut-être que toi, c'est pas. Tu es assez proche de Brioude, mais nous, c'est tout de suite une heure de route. Ouais. Alors que si c'était dans le département, on va moins loin. On connaît bien les autres adhérents. Ça aussi, c'est intéressant en termes de réseau. On a tout intérêt à avoir une AFOG au niveau lozérien, en fait.
Et est-ce que, la Chambre d'agriculture pourrait vous aider dans ce genre de direction Ou est-ce que vous pouvez aller trouver de l'aide?
C'est une association, donc l'aide, c'est nous qui devons nous la créer en trouvant des adhérents, en fait. Okay. Alors, voilà, ça vient pas d'ailleurs. En fait, en termes associatifs, c'est les adhérents qui font marcher l'association.
Juste pour parler de la Chambre d'agriculture, c'est pas pour dénigrer aucune entreprise de comptabilité privée. C'est juste un constat. Dans toutes les chambres d'agriculture de France, en tout cas celles que je connais, dans les mêmes locaux sont hébergés le CERF France, Centre d'expertise rurale, je crois, France, qui est anciennement l'agence de gestion et qui est le comptable historique de tous les paysans. Moi, pour m'être installé avec la Chambre d'agriculture, on m'a tout de suite envoyé vers le CERF France, on m'a jamais parlé de la FOG.
Ouais.
Voilà. Donc, je pense que c'est pas auprès de la Chambre d'agriculture qu'il faut aller chercher des appuis pour monter une AFOG.
La réponse est claire. Simon, tu voulais intervenir?
Oui, enfin, je crois que, Ben, vous avez enfin entamé quelque chose de très important. Les trois personnes devant vous aujourd'hui, on est sur une approche de l'autonomie. Ok, et que ce soit la vente, et Julien va en parler tout à l'heure par rapport au réseau des boutiques de producteurs, que ce soit la gestion comptabilité qui est faite par les AFOG et au niveau national Interafog, on prône une agriculture paysanne où on est autonome, on est décisionnel. Et l'intérêt de tout ceci, c'est que pour être comme ça, parce qu'un agriculteur, enfin, il est multi-acteur. Il faut être veto, il faut être comptable, il faut être mécanicien, il faut être gestionnaire. c'est un sacré métier. Et c'est vrai que quand on écoute la Chambre ou le syndicat majoritaire, ils essayent de nous déboîter dans des cases pour qu'on soit bien spécialisé, qu'on homogénise les productions, les réflexions des agriculteurs et tout le reste. Mais on voit bien que ça ne marche pas. On voit aujourd'hui, on est plein dedans. On croyait pas que le changement climatique et toutes ces choses allaient nous frapper de telle ampleur. Mais on y est. Il a fallu 10 ans et ça nous frappe. On croyait que ça serait en 2050. Mais c'est grâce à les acteurs qui co-construisent ces instances, la Confédération paysanne, mais le CONF a été construite par d'autres syndicats agricoles à l'époque. Aujourd'hui, il est là. Le CONF est les co-fondateurs de Interafog, de Solidarité Paysan et d'autres structures. C'est ça l'importance. Et la pérennisation des fermes, c'est avec des entrepreneurs paysans qui comprennent qu'est-ce qu'ils font. Et c'est ça l'importance, enfin. Et j'aimerais bien dire, je vois que mes deux collègues, ils sont déjà bien roulés, ils se rendent pas compte, mais l'important, c'est que les AFOG ont fait notre propre compta. Les formations que nous faisons, c'est pas que l'animateur va venir avec un compta type et vous devez essayer de le comprendre. Non, vous venez avec votre comptabilité et pendant le temps que vous êtes avec eux, ils vous accompagnent dans votre comptabilité qui est adaptée à votre projet de vie. Et c'est ça, quelque chose de très, très important. Mmh. Et quelque chose que malheureusement, le CER, non, oui, ils vont faire votre compta, ça va coûter entre 1 100, 1 600 euros par an. Vous comprenez pas grand-chose parce qu'ils vont vous pendre le bilan et le compte-résultat à la fin. Et ils vont faire ça dans 20 minutes parce qu'ils n'ont pas le temps et il y en a tellement d'autres à faire. Et c'est ça qui fragilise les acteurs agricoles aujourd'hui sur le terrain. Et quand ça marche bien, on n'a pas besoin d'une solidarité paysan. Mais voilà, malheureusement, on existe et je parlerai.
Alors, juste.
Heureusement qu'on est là, mais malheureusement, c'est dommage que. Voilà. Alors, si l'installation agricole a été faite autrement, peut-être les gens ne seront pas mis en difficulté et on n'aura pas eu besoin en 88 et surtout en 92 d'avoir fabriqué solidarité paysan.
Alors, justement, tu as la parole, je te propose que tu la gardes pour nous présenter solidarité paysan pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. C'est quoi?
Alors, solidarité paysan. C'est une association aussi nationale, hein, mais qui se décline dans les départements et dans les régions. D'abord les régions et après les départements. Rebelote en Lozère, on est en train de créer le structure. C'est une association pour venir en aide envers des agriculteurs qui sont en difficulté. Difficultés financières, mais le moment qu'on parle de difficultés financières, c'est aussi des difficultés humaines. Mmh. Et alors, il y a des formations si vous voulez être animateur ou un bénévole de la structure. Il y a des petites formations à faire pour pas faire des erreurs. Mais c'est quelque chose. Alors, c'était fabriqué, inventé dans les années 80. Suite à un ensemble, une vingtaine d'années d'agriculture intensive, etc., où on voyait déjà des gens entrer dans le mur avec des problématiques de contractualisation et tout le reste. Et enfin, la Confédération paysanne avec la MRGC et je rappelle pas tout, mais le MODEF était là. Ils ont décidé qu'il fallait fabriquer cette association d'accueil faite de agriculteurs. Hein. Il y a pas. Ok. Aujourd'hui, on embauche des animateurs, animatrices pour nous aider parce que notre métier, c'est du plein temps. Et même, je veux dire, regarde les tranches de mes collègues autour, ils dorment peu. C'est vraiment du plein temps, l'agriculture, surtout le contexte des années 2000. Voilà, rebelote, il faut trouver des financements pour avoir quelqu'un qui puisse animer. C'est très important, ça. Cette animation, que ce soit des Interafog, que ce soit Solidarité Paysan, que ce soit une GAB locale, les choses comme ça. On a besoin aujourd'hui d'être secondé par une collaboratrice ou collaborateur salarié, parce que la technicité est telle. Mais en tout cas, Solidarité Paysan, on est là, mais on intervient seulement quand quelqu'un nous fait appel. C'est pas parce que la MSA ou le CER ou quelqu'un va dire, mais on sait que cette personne est en difficulté et il faut aller le voir. Non, on peut pas. Parce que, enfin, il faut avoir du courage de se comprendre où on en est dans notre projet de vie. Et si la personne nie encore les difficultés qu'il est dedans, c'est pas parce qu'on va venir avec tous les outils que nous avons qu'on va vraiment l'aider. Alors, ça semble moche de les dire comme ça, parce que on peut être au courant de structures en difficulté et on est en train de les observer de loin, mais on a vraiment besoin que les gens comprennent, et c'est pour ça que le lien humain, cette problématique humaine est très important. Pourquoi d'avoir ces associations multi-acteurs est archi important pour garder ce lien humain, pour que les gens n'ont pas peur de parler des choses qui se passent. Pour apprendre, bien sûr, ça c'est le côté positif, mais quand les problèmes commencent, il faut pas avoir peur aussi de dire à ses collègues et tout le reste. Et c'est ça aussi le côté vraiment humain de l'agriculture paysanne et la Confédération paysanne, mais on n'est pas que tout seul, excuse-moi. Je suis conf, mais je vais parler des CIVAM, il y a d'autres structures importantes qui aident ces tissus humains locaux, et voilà, il faut que les gens font des efforts de garder un contact humain pour que, voilà, on n'intervient pas, que ce soit en AFOG ou la CONF ou surtout Solidarité Paysan, trop tard, parce que il y a 4 axes qu'on peut mettre en route pour aider, mais il faut que le paysanne, paysan soit au courant et de son situation, qui est prêt à le faire, et si possible bien en amont. On peut commencer à avoir des difficultés, et il faut, si on apprend la gestion et la comptabilité, on peut dire ouais, c'est maintenant je dois tirer ma propre sonnette d'alarme, j'ai besoin d'un accompagnement pour éviter que je tombe dans la noirceur et les grandes difficultés, parce que ça peut aller jusqu'à liquidation, hein. On peut perdre notre projet de vie, le bien, et de temps en temps, hein, dans des contrées comme la Massif Central, c'est du bien générationnel. On est souvent le père ou le petit-fils de quelqu'un qui a mis en place une ferme, et toute cette lourdeur-là est difficile à vivre pour dire que c'est moi qui ai fait l'échec, ça va pas, et c'est ça qu'il faut essayer d'éviter, quoi.
Alors justement, en préparant cette émission et en me disant, je me suis simplement demandé c'est quoi l'autonomie paysanne, et je me suis aperçu que ça englobait vraiment plein de choses, l'environnement, les moyens de production, la manière d'élever, de récolter, la taille de la parcelle, la distribution, c'est vraiment tout ça, vraiment l'impression que c'est une montagne à franchir. Est-ce que c'est possible?
Bien sûr que c'est possible, ça l'a été historiquement. Historiquement, les paysans ont toujours été des gens très autonomes dans leur boulot. C'est que depuis l'industrialisation de l'agriculture des années 50 et la spécialisation, que finalement, on a, comme évoqué Simon au début de son intervention, on a fait en sorte que les paysans deviennent des agriculteurs et des opérateurs techniques uniquement, qui soient là juste pour accomplir une tâche de la chaîne, quoi, et de la maîtriser très bien et de faire que ça, et on leur fait tout le reste en aval et en amont. On s'occupe de leur trouver des tracteurs trop gros pour qu'ils puissent le démonter, le maîtriser, le réparer. Donc ils sont pieds et poings liés aux vendeurs de tracteurs. Comme il est trop gros, il est trop cher, donc ils sont pieds et poings liés à la banque qui leur prête l'argent parce qu'ils ont du capital qui peut assurer un échec possible. Et après, pour l'aval, ben, c'est pareil, en fait. Ici, on pied et poing lié à la grande distribution, quoi. Donc, on en a fait, historiquement, quand on prend un peu de recul historique, les paysans, ils sont devenus des agriculteurs qui n'ont plus d'autonomie. Mais cette autonomie, justement, c'est, pour moi, un combat libertaire de la conf, de la retrouver, quoi. C'est pour ça que je fais du syndicalisme.
Sylvain, est-ce que, donc toi tu es vigneron,
oui.
C'est Espagnac, est-ce que tu te considères comme autonome?
Eh bah, ben pas complètement, on est toujours tributaire de bah de, je sais pas moi, pour par exemple d'acheter des bouteilles, cette année c'est compliqué. Mais la recherche d'autonomie, c'est plus eh ben, d'avoir moins c'est moins d'impact sur notre structure, quoi. Donc sûrement ça ira à terme par la récupération de bouteilles, enfin c'est pas, par exemple, hein, c'est cet exemple. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une taille qui me permet justement de gérer ces impondérables.
Et puis parlons des boutiques de producteurs, puisque tu es là pour en parler, Julien. On en voit fleurir partout. À Florac, il y en a 2. Ça prouve qu'il y a un dynamisme et une vraie envie à ce niveau-là.
Alors moi, je vais parler déjà pour situer mon expérience. À Saint-Chély, en Nord-Lozère, on a monté il y a 7 ans et demi maintenant. Un magasin qui n'est pas affilié à un réseau, donc je connais peu les réseaux, je les connais de loin, je sais qu'il existe boutique paysanne et terre d'envie auxquels on s'était adressé au tout début de la création du magasin, qui peuvent servir d'appui pour les gens qui ont un projet de création de magasin collectif, notamment via du financement Vivea. Le Vivea, c'est le fonds de formation auquel cotisent tous les agriculteurs. Et en fait, les réseaux, Boutique Paysanne et Terre d'Envie, aident à la création des magasins en se finançant sur ce fonds Vivea. Voilà, donc nous, on a monté ce magasin il y a 7 ans et demi. Comment c'est parti? C'est parti du constat de quelques copains producteurs sur les marchés, de se dire, il y a des magasins de producteurs à Mende, il y a des magasins de producteurs à Florac, il y a des magasins de producteurs en Haute-Loire. Allez, pourquoi ça ne marcherait pas à Saint-Chély? Il y a aussi un autre constat, c'est qu'à Saint-Chély, on faisait le marché le jeudi. Tous les marchés de semaine, c'est le même constat. Qui peut aller au marché en semaine? Les retraités et les gens sans emploi ou qui ont un emploi du temps qui est suffisamment souple pour leur permettre de se dégager du temps pour aller au marché en semaine.
Genre ceux qui bossent à la radio, par exemple.
Par exemple, et tant mieux pour eux. C'est très bien. Et c'est une chouette clientèle, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que nous, paysans, qui essayons de vendre en direct, eh bien, ça nous limite beaucoup dans la clientèle possible. Donc, comment toucher des gens qui travaillent toute la semaine et qui ont que le soir ou le samedi pour aller faire les courses? En montant un magasin de producteurs. Voilà. Ça répondait à ces deux questionnements, quoi. Et on avait le feeling, l'idée, le pressenti que ça allait marcher, qu'il y avait la place pour ça. Saint-Chély, il y a quand même si dans le sud de Lozère vous vous rendez pas compte, mais il y a quand même une fréquentation touristique qui est importante et en croissance. Il y a beaucoup de résidences secondaires. Et puis moi, ce qui est a posteriori, 7 ans et demi après l'ouverture du magasin, ma plus grande fierté, c'est qu'on a beaucoup de clientèle locale qui viennent faire des courses régulières. Parce que magasin de producteurs, c'est pas forcément qu'un magasin à bocaux où il y a que des produits de longue conservation. Ça peut aussi être un magasin où il y a du frais, où il y a des salades, où il y a des saucisses, où il y a du chèvre frais, où il y a du lait, où il y a du beurre. Qui permet de faire des courses régulières. Et à Saint-Chély, c'est une des grandes réussites de ce magasin, c'est qu'on a des mamies du centre-ville qui viennent faire leurs courses régulières 2-3 fois par semaine. Et on a aussi cette clientèle-là.
Et ça permet aussi pour vous, ces boutiques, de fixer vos prix et de vous rétribuer à juste valeur.
Alors, le magasin de Saint-Chély est une SARL, le but du jeu étant de rétribuer au maximum les paysans. Les commissions qui sont prélevées sur chaque vente sont réévaluées chaque année, jusqu'à maintenant à la baisse, on espère que ça va durer, pour couvrir les charges fixes du magasin et uniquement pour couvrir les charges fixes du magasin. On est, donc c'est pas un secret, on est une SARL, la capitale fixe, c'est-à-dire qu'au départ on a investi chacun, donc on est 9 associés à part égale, on a investi chacun 11, quelque chose pour cent du capital. Si dans 20 ans je veux me retirer du magasin et je veux récupérer mon capital, je vais récupérer exactement ce que j'ai mis il y a 7 ans et demi. Le capital n'évoluera pas avec le chiffre d'affaires, et ça c'est hyper important, parce qu'en fait ça peut paraître un détail technique, mais ça veut dire que pour moi, associé du magasin de producteurs, le magasin est un outil de maîtrise de ma commercialisation et pas un outil de capitalisation. C'est pas avec ça que je vais faire ma retraite. Voilà. Non, mais ça, c'est vraiment important, parce que il y a cette tendance capitalistique souvent dans le milieu agricole de se dire, on trime beaucoup, on gagne pas beaucoup, mais au moins à la fin, quand on va sortir de la carrière, on va essayer de sortir, de prendre un gros billet, quoi. Voilà. Là, nous, notre magasin, je pense comme la plupart des magasins, je connais pas les autres modèles, mais le fait que le capital soit fixe, c'est hyper important.
Sylvain, est-ce que les AFOG peuvent aider dans fixer les prix, etc. Est-ce que ça le propose, ou alors c'est
Non, pas directement, mais le fait de mieux connaître ces chiffres permet d'être plus juste dans notre rémunération et dans le prix qu'on fixe sur nos produits. Nous, pour revenir sur les magasins paysans, enfin, de producteurs, moi j'en fais partie à Florac, et nous c'est une association, quand on se retire, on reprend rien du tout, quoi. On n'a rien investi, mais on reprend rien du tout. Donc ça permet aussi de rentrer dans un magasin à peu de frais, quoi.
Donc ça, là, c'est associatif.
C'est associatif,
oui. Ici à Florac. Alors, quid des politiques publiques sur le sujet de l'autonomie ? Est-ce qu'on va dans le bon sens ?
Ben non, bien sûr que non. I mean, ils ne cherchent pas à nous rendre autonomes. Ça, c'est dangereux. Des électrons libres qui puissent réfléchir, prendre des décisions, etc., etc. Non, non, les pouvoirs publics, non, ils cherchent pas ça. Oui, ils aimeraient bien qu'on soit des bons petits moutons qui fabriquent, qui produisent et qui fabriquent beaucoup d'argent pour le structure existant. Mais ils cherchent pas de tout que le citoyen lambda, non, parmi notre métier, c'est une chose, mais sincèrement, vous voyez vraiment des gens libres, autonomes dans nos pays occidentaux, parce que je veux pas pointer du doigt avec mon accent que la France, mais
quel accent, Simon?
Ça sent le Marseillais.
Mais oui, à fond. Mais voilà, c'est la sardine qui a bloqué le porc, c'est ça. Mais non, on cherche pas l'autonomie et c'est clair et net. Et regarde l'éducation nationale, non, on fait pas ça de tout. Mm. Et c'est pour ça que l'éducation populaire, 6 ans, nous avons nos élections professionnelles. Et c'est là, malheureusement, voilà, on voit que les collègues, pour, je sais pas quelle raison, ne votent pas pour nous. On a pris le pouvoir de très peu de chambres d'agriculture, autant en métropole qu'à l'étranger, dans les dom-toms. Et ça, au niveau national, on ne sait toujours pas pourquoi. C'est assez incroyable parce que, voilà, enfin, quand on fait les démarches de vraiment entrer à la conf et en profiter de tous ces services que la conf offre, sincèrement, avec ses partenaires, déjà les trois autour de la table, mais il y a plein d'autres partenaires. On fait partie tous d'une énorme famille qui s'appelle Impact. Ok, le conf en tant que syndicat n'est pas nationalement membre de l'Impact, mais dans des départements, il y a des impacts citoyennes et territoriales. C'est très important, ces mots-là. C'est pour permettre aux citoyens de passer, parce qu'aujourd'hui, passer la porte de la Chambre d'agriculture et donner un avis ou proposer quelque chose pour assurer une meilleure alimentation et tout le reste, aujourd'hui, le citoyen lambda qui fait ça sera rejeté d'or. Nous, l'impact, c'est enfin l'idée derrière, c'est de créer des chambres d'agriculture alternatives pour permettre les citoyens à avoir un part politique dans les décisions de l'alimentation et la direction des choix de production, des choses comme ça. Mais voilà, c'est ça l'approche sociétale que nous prônons. Et l'autonomie, bien sûr, c'est un des points clés pour qu'on puisse être intelligent, respectueux du vivant et l'ensemble des choses que nous faisons sur cette petite planète bleue.
Alors, autonomie, est-ce que ça veut dire pouvoir s'affranchir d'aides, de subventions telles que la PAC ou alors est-ce que c'est encore trop compliqué de penser
Alors, le maraîcher va prendre la parole. Il y a des productions qui sont plus faciles pour s'affranchir des aides. Clairement, le maraîchage, c'est une production très peu aidée. Moi, je suis un des seuls paysans qui a pas honte de dire combien il touche de PAC. Ceci dit, c'est facile de trouver l'information. Les aides PAC sont des aides publiques, donc les infos sont publiques. Vous pouvez trouver les aides sur Télépac. Moi, je touche 430 € de PAC par an. Clairement, si on m'enlève 430 € de PAC, je vais y arriver. Voilà. Il y a d'autres productions dans lesquelles c'est très compliqué de s'affranchir des aides, voire impossible. C'est-à-dire que, par exemple, en bovin viande, quelqu'un qui a fait le choix courageux de s'affranchir des aides, soit il n'a pas besoin de revenus de son travail pour vivre parce qu'il a d'autres sources de revenus importantes, soit il a trouvé des niches de distribution incroyables où il arrive à vendre sa viande à un prix exorbitant, quoi. Donc en fait, il travaille pour 4 bourgeois qui peuvent se payer du steak à 80 € le kilo, quoi. Moi, c'est pas ma vocation. Pour moi, c'est important que le fruit de mon travail soit accessible. S'affranchir des aides, globalement, ça me paraît compliqué.
Et trouver un équilibre, est-ce que ce serait possible ? Un système peut-être plus égalitaire ?
Alors, ce qui serait intéressant, et c'est bien pour ça que la Conf milite pour ça, c'est que les aides soient mieux réparties. C'est-à-dire, une des vieilles revendications de la Conf, et qui me paraît toujours d'actualité, c'est des aides à l'actif et pas des aides à la surface. C'est-à-dire que sur une petite ferme de 3 hectares, pourquoi on toucherait beaucoup moins de primes qu'une grosse ferme de 100 hectares. S'il y a un seul paysan qui fait tourner la ferme, pourquoi il aurait droit à plus de primes, quoi. Enfin, donc nous, on réclame une aide à l'actif, et ça, ça aiderait beaucoup de choses, et ça éviterait aussi la course à l'agrandissement et la rapacité de certains agriculteurs qui ne pensent qu'à une chose, bouffer leurs voisins dès qu'ils finissent sa carrière.
Ça c'est dit au moins, mais c'est clair. Enfin, et revenons sur le prix en grande surface aussi. Est-ce que, alors, on en a ici à Florac, malheureusement, ce serait cool de n'avoir que des petites épiceries un peu partout. Est-ce que commence à le jouer le jeu les grandes surfaces, ou alors est-ce que on est encore loin du compte?
Alors moi, je travaille pas du tout avec les grandes surfaces. Là-dessus, je peux pas vous dire. Je pense qu'il y a certaines grandes surfaces qui peuvent jouer le jeu sur certains produits. Mais ça devient un produit d'appel, et ça ne reflète pas du tout ce qui se passe sur la globalité.
C'est de l'affichage, quoi. En clair, effectivement, il y a quelques... Moi, je connais quelques collègues producteurs, fermiers, qui travaillent à des grandes surfaces avec des prix qui sont corrects, et où ils ne leur discutent pas les prix. Mais pour un qui vit bien grâce à la grande distribution, eh bien, il y en a 500 qui sont pieds et poings liés et qui se font dicter des prix. Juste pour la petite histoire, parce que j'y pense souvent, il y a une dizaine d'années, j'ai acheté une serre d'occasion chez un maraîcher à Saint-Gilles, dans le Gard, à la limite de la Camargue. En fait, le gars, il avait fait faillite parce qu'il était passé à monoproduction de radis. Il faisait que du radis, mais il faisait très bien le radis. Il avait un gros débouché avec Carrefour qui lui assurait un prix à l'année. C'était contractualisé à l'avance. Et un jour, Carrefour lui a demandé l'exclusivité. Il a accepté. Et puis, une fois qu'il avait plus qu'un seul produit et qu'un seul client, et bien Carrefour était en position de force, et puis l'année d'après, ils ont baissé les prix. Et l'année d'après, ils ont baissé les prix. Il a dit, ben, c'est pas possible, c'est en dessous de mes coûts de production, donc je peux pas vivre. Et j'ai des gars à payer et je peux pas. Il dit, ben oui, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, il a fait faillite et il a vendu une serre. Voilà.
Ouais, ça pique.
Ben, c'est une triste histoire, mais enfin, pour moi, je vois peut-être le tableau très noir, mais pour moi, la grande distribution, elle n'a pas vocation à faire vivre les paysans. Elle a vocation à avoir des marges de plus en plus importantes. Ça veut dire vendre le plus cher possible du côté du consommateur et acheter le moins cher possible du côté du producteur pour rémunérer au maximum ses actionnaires. Donc à partir de là, moi, je vois pas qu'est-ce que la grande distribution peut faire pour aider les paysans à vivre.
On arrive tout doucement à la fin de ce plateau. N'hésitez pas, dans le public, si vous avez des questions, il y a un micro qui est ici, donc n'hésitez pas. Allons vers le positif. Est-ce que tendre vers l'autonomie, vous le conseillez forcément à des jeunes agriculteurs, paysans, paysannes, mais qu'est-ce qui sera le plus dur pour eux et qu'est-ce qu'ils doivent surmonter?
Je pense que la première des choses, c'est déjà bien savoir... on parle d'autonomie, mais c'est aussi d'autonomie pour soi, en dehors de notre structure. Donc, bien savoir les besoins que l'on a et la rémunération que l'on veut. Parce que ça n'a rien à voir entre vouloir 1500 euros de revenus par mois et puis vouloir 6000 euros. Donc, je pense que l'autonomie, ça passe déjà par une introspection sur ce qu'on veut. Et après, savoir quelle structure on met en face par rapport à ses besoins.
C'est bon?
Oui, enfin, il y a deux populations qui entrent dans ce métier. Hein. Il y a bien sûr ceux qui sont nés dedans, qui vont reprendre la ferme de leurs parents ou l'oncle ou les choses comme ça. Et souvent, voilà, ces gens-là, ça tourne, peut-être il y a des hauts et des bas, mais voilà, ils entrent dans les formations agricoles, ils vont accepter avec beaucoup plus de facilité les techniciens qui sortent de ces instances historiques, des chambres et les choses comme ça. Et c'est pas faute, même en Lozère, hein. On a eu des familles très connues où à un moment donné, il y a une génération qui reprend et malheureusement, son projet trop gourmand dans l'investissement et tout le reste, et au bout de 3-5 ans, ouais, liquidation, ça arrive. L'autre population qui entre dans le milieu agricole, c'est qu'est-ce qu'on appelle les NIMA ou les orchards familiaux, les choses comme ça. Et ces gens-là, ils représentent 60% des nouveaux installés chaque année. Mmh. Et c'est des gens, c'est souvent des gens qui ont déjà un parcours professionnel dans d'autres métiers. Ils sont pas du tout homogènes. Hein. Il y en a qui, c'est des gens de 40 ans, la crise des quarantaines, ils ont envie de changer, ils posent des questions par rapport à voilà la grande distribution. Déjà, qu'est-ce qu'on est en train d'acheter? Parce que si vous regardez l'étiquetage, c'est du chinois, ils font déjà trois quarts de l'étiquette sur le truc, tous les ingrédients qui vont dedans. Alors il y a ces gens-là qui ont souvent un bon bagage, arrivent la quarantaine, ils veulent changer, ils veulent trouver du authentique. Mais on a aussi des moins âgés qui entrent, mais qui ont quand même un parcours d'éducation différent, qui veut retrouver un peu les sources. On a une génération de jeunes militants dans la société et qui veut faire autre chose. Et c'est vrai que ces personnes-là, c'est un bouffée d'air frais hein, dans le milieu agricole parce que c'est eux qui nous soutiennent, nous, les alternatives, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais je connais pas un autre mot pour parler des oppositions de l'activité agricole traditionnelle. Mais ils veulent savoir comment gérer eux leur projet de vie. Et voilà, c'est grâce à eux qu'on trouve des bénévoles qui entretiennent nos associations de gestion et comptabilité, les réseaux de boutiques, il y a des réseaux d'éleveurs par rapport à comment soigner nos bêtes, les choses comme ça. Et c'est souvent ces gens-là. Ok, on attrape des traditionnels parce qu'ils voient que les coûts augmentent et ils entendent parler de soigner par homéopathie. Un tube vaut 2 euros et ça peut soigner tout un troupeau au lieu de payer 1500 euros pour les médicaments, l'intervention du veto et tout le reste. Il y en a un petit peu des anciens systèmes qui viennent vers nous, mais c'est vraiment c'est cette autre population qui sont très importants et qui veut l'autonomie et qui refuse de simplement soumettre à quelque chose qui nous coince dans des systèmes qui, enfin, c'est les autres qui en profitent et ces autres sont minoritaires. Je veux dire, en France, il me semble, ok, le grand distribution a été inventé dans les années 50. Le plus célèbre, ok, il y a quelques grands magasins à Paris, mais le plus célèbre, c'était le fils de Leclerc, le père de Leclerc, pardon, qui a inventé l'épicerie où on trouvait tout sous le même toit. Mm. Je pense que ce personne-là ne rendait pas compte qu'est-ce qu'il faisait. Il pensait de rendre service, mais voilà, comme aujourd'hui, depuis vraiment, il y a des dates clés hein, dans nos sociétés occidentaux. Hein. La crise pétrolière de 73 a permis vraiment la spéculation alimentaire. Toutes ces spéculations de la bourse, c'est ça qui nous amène dans le mur, parce que tout d'un coup là, l'être humain n'est plus visible. C'est que le produit qu'on vend à n'importe quel prix, on s'en fout du déchet que ça peut faire. Et malheureusement, l'alimentaire transformé comme alimentaire brut et spéculatif aujourd'hui. Et si ce n'était pas pour les subventions du PAC, facilement 80-85% des agriculteurs aujourd'hui n'en s'en sortiront pas. Mais nous faisons partie de notre plateforme, voilà, un collectif. Avant, c'était appelé la plateforme pour notre PAC. Alors, ces citoyens et professionnels, aujourd'hui, ça s'appelle Nourrir. Je vous invite d'aller voir ça sur Internet et voir, parce que tout citoyen a le droit de participer. Ou, oui, on aimerait bien vivre de notre profession sans les aides, mais on sait très bien qu'ils font transition. Parce que cette transition d'arrêter d'utiliser des intrants chimiques et tout le reste, c'est possible, mais ça prend du temps. Le sol est une structure vivante. Tu peux pas, le jour au lendemain, arrêter de chatouiller les microbes d'une manière en amenant autre chose. Ça se prend 5, 7, 10 ans de le faire. Alors, on a besoin d'une transition. Et le PAC, c'est quelque chose, on doit tous dire, ça doit disparaître, mais il faut que ça reste là pour le moment, pour nous aider à changer de modèle de production, à permettre à un maximum de personnes, et encore, on n'est pas si nombreux, on prend 1 million de plus d'actifs sur les territoires français, on a vraiment besoin pour qu'on produise l'autonomie alimentaire, souveraineté alimentaire, et des choses comme ça. Voilà, j'arrête là.
Un petit mot de conclusion, Julien.
Pour rebondir sur ce que disait Sylvain sur le calibrage du projet, en fait, tu nous demandais quel conseil on pouvait donner à un jeune qui voulait se lancer dans l'agriculture pour être autonome. Je pense qu'effectivement, quelle que soit la structure avec laquelle il veut faire son projet d'installation. Les chambres d'agriculture le font, les ADR aussi. Dans certains départements, les AFOG aussi font les dossiers d'installation. Quelle que soit la structure qu'ils choisissent, il faut vraiment que le projet lui ressemble et soit vraiment le sien et qu'il ne se fasse pas imposer un projet, une production, un calibrage, surtout un calibrage, une taille de projet qui ne soit pas vraiment celle qu'il avait choisie au départ. Voilà. Et il y a ça, donc j'invite les jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à aller ouvrir la porte de l'ADR la plus proche de leur département. En Lozère, on a la LODR qui fonctionne très bien. Et deuxième chose, pour revenir sur les AFOG, je voulais juste préciser qu'il est tout à fait possible de faire une comptabilité en DJA, là, dans la DJA, c'est la dotation jeune agriculteur, qui impose avoir une comptabilité aux normes. Souvent, on pense que ça veut dire aller pousser la porte du CERF France ou d'une comptabilité privée. Il est tout à fait possible de faire une compta DJA avec l'AFOG. C'est mon cas. Je suis en quatrième année de DJA, j'ai fait ma compta avec la FOG et je pense, j'espère, que ça posera pas de problème à la sortie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien que les porteurs de projet aient en tête.
Le message est passé. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé.
Merci à toi.
On se retrouve cet après-midi à partir de 13h30 ici à L'Encrier, là pour parler des initiatives techniques vers l'autonomie paysanne. Ça va être aussi passionnant. Retrouvez-nous. Merci beaucoup à toi Marie-Hélène et à L'Encrier pour l'accueil. Merci à Véro pour les moyens techniques. À tout à l'heure et vive la fête paysanne. Merci beaucoup. Le 15 octobre,
dans toute la ville de Florac,
c'est la fête paysanne.
Marché de producteurs, conférences, rencontres, partage.
Cette année, on parle ensemble de l'autonomie paysanne.